pour le livre dans le chat qui me langue, parce que je crois que M. Lang a essayé de le faire traduire en France, et que les éditeurs n'étaient pas intéressés, donc je ne sais pas comment se relancer l'affaire, mais il faut de l'argent, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Il existe quand même pour l'instant.
Quelqu'un demande, une fille, quand sa maman était gazée, elle avait des bichetons, que vous connaissez aussi.
Oui, oui.
Donc c'est aussi une demande à
elle. Qu'est-ce
que vous
voulez dire? Merci, docteur Peterman, d'avoir fait mémoire de le professeur Robert Betz, dont je suis un humble sujet et un humble scientifique qui a travaillé pendant 17 ans au centre de transfusion. Je suis également donneur de sang bénévole, donc je garde l'anonymat. Simplement, je voulais arrondir dans votre sens parce que, à l'occasion de la préparation du congrès de transfusion sanguine qui a eu lieu à Strasbourg, j'ai assisté, je suis scientifique, je suis pas médecin, je ne prends pas parti, j'ai assisté à une altercation entre deux jeunes médecins, tous deux élèves du professeur Betz. Il s'agissait d'un certain nombre d'essais cliniques à mettre en place, et l'un de ces médecins scientifiques, très scientifiques, a proposé de faire un certain nombre de classes, de ranger les patients dans un certain nombre de cases, tout ceci dans la plus pure éthique médicale, bien entendu. Et le clinicien a toisé d'eau, car il était très grand, donc je garderai son anonymat aussi. Il a répondu, mon ami, mes patients ne sont pas des rats. Je crois que tout était dit. J'ajoute que le médecin, si vous voulez les ranger comme des rats, a été formé aux États-Unis et que les États-Unis prennent certainement moins de précautions en matière d'éthique. Si vous voulez d'autres petites anecdotes, une société d'études cliniques suisse a été condamnée parce qu'elle proposait dans le protocole d'acceptation qui est normalement signé par les patients en études cliniques à des sujets lituaniens un protocole en anglais qui était incapable de comprendre en leur disant simplement tu signes là et c'est prêt.
Alors, quelques minutes, merci beaucoup Marcel pour ton hospitalité. Je voulais rendre hommage à la mémoire de deux victimes du professeur Hagen. Rafi a ramené à notre mémoire collective le nom des Sinti qui ont été sélectionnés par collègue allemand qui a adhéré au nazisme. C'est Sinti, c'est Rome, reste aujourd'hui la minorité la plus importante d'Europe, la plus stigmatisée, comme si on n'avait rien appris des mécanismes de la mise en marche à l'époque du nazisme. Et ces deux victimes ont un nom singulier. Il s'agit en effet de Ferdinand Sarkozy. Né le 24 février 1904 et mort le 12 novembre 1943, Ferdinand Sarkozy et Franck Sarkozy. Né en 1992 et mort en 1943. L'un en convoi et l'autre au scrutin. Je voudrais vous inviter aussi, avant de remettre le prix Véronique Dutrier à sa fille, vous inviter à nous rejoindre samedi. Samedi, si vous avez quelques heures à partager, venez prendre le bus, place de Bordeaux, à 10h. Place de Bordeaux, je crois que c'est le premier Bordeaux, hein, c'est le Bordeaux de l'époque allemande, c'est pas le Bordeaux du procès de Bordeaux, il me semble. Hein. Venez place de Bordeaux à 10h, dans le bus affrété par le CERD, le Centre européen du résistant déporté. Et nous avons le plaisir d'avoir sa directrice parmi nous, Frédéric Nau-Dufour, qui a succédé à Frédéric Lexler en août dernier. Et donc Frédéric a pris le relais du travail de Valérie et soutient nos démarches dans le rapport à la mémoire. Et c'est grâce au CERD que nous pourrons, en bus, partir de la place de Bordeaux et parcourir quatre étapes que je vais vous citer parce qu'elles font partie de la manière d'amener le prix. Véronique Dutrier, on va faire en bus le trajet que les déportés ont fait en train. Je me suis toujours posé la question de savoir comment les 86 s'étaient rendus compte, en partant d'Auschwitz, qu'ils arrivaient à l'ouest. Et s'ils avaient reconnu, en arrivant à la gare de retour, le fait qu'ils étaient en territoire annexé. On va refaire en bus le chemin qu'ils ont fait en train. On va s'arrêter au mémorial d'Alsace-Lorraine pour commencer, qui est cher à Marcel. Bon, ne portez pas plainte à la LICRA. Hein. Alsace-Moret. Alors, Alsace-Moret, parce que Lorraine est cher, je vais y revenir tout de suite. Hein. Alsace-Moret. Et on va travailler au pied du mémorial sur le concept de malgré nous, qui est fondamental pour moi, et qui renvoie à la question d'adhérer ou non à une idéologie. Est-ce que Hagel, Dickenbach étaient des malgré nous? Est-ce qu'aujourd'hui, les spécialistes qui refusent les bénéficiaires de la CMU sont des malgré nous? Ce sont ces questions qu'on va développer auprès du mémorial d'Alsace. Moselle, je vous le rappelle. La deuxième étape va être une étape fantôme. On va essayer en vain de retrouver les lieux du camp de Chimay. Aucune trace. Donc les gens qui vont m'accompagner vont partir en éclaireur, à pied, sans nourriture, à partir du mémorial pour retrouver le lieu du camp de Chimay. On a droit à 10% de perte. Alors, ce qui m'a toujours troublé, François, c'est qu'il n'y a pas de signalétique qui permette aux jeunes français, alors je ne parle pas des Allemands, de retrouver ce camp de Chimay. Sans doute que le camp de Chimay fait partie de l'archaïsme de notre mémoire. C'est de la préhistoire. Et rien n'y fait. On n'arrive pas à avoir d'indicateurs. Et donc, ceux qui seront avec nous samedi, devront se repérer par rapport au supermarché, je crois que c'est Simpli ou Intermarché. Hein. Donc, alors, ceux qui se perdent à partir du mémorial, rendez-vous à l'Intermarché. On essaiera de trouver ensuite le camp.
Je vais apposer une plaque. En 50 ans, 40 ans.
De quel type, François?
Une plaque pour rappeler l'emplacement. Sur une maison.
Ah, elle est sur la
baraque. Je pense qu'elle y est encore.
Alors, elle est sur la baraque du camp. Du capitaine du camp.
À l'entrée du camp.
Alors, elle y est toujours. Alors, rue du Souvenir. Ouais. Du Souvenir. Il se trouve que cette baraque a été achetée par un particulier. Elle n'appartient pas au patrimoine historique collectif. Elle appartient à un particulier. Et que le bâtiment qui survit est devenu un bâtiment où se situent 12 logements sociaux. Ce bâtiment qui servait d'usine à l'époque du camp est devenu un bâtiment à vocation sociale. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il n'y a pas de mémoire de ce qui s'est passé.
Comme à Drancy.
Comme à Drancy. La troisième étape, ce sera la gare de retour, qui pour moi est le lieu, le cœur du système totalitaire nazi. On ira à la chambre à gaz. On n'ira pas au camp lui-même, parce que chacun peut y aller à sa mesure et quand il veut. Et on poursuivra la visite à la carrière du Schutthof. Voilà le chemin que nous allons parcourir samedi, en partant de la place de Bordeaux à 10h, et en revenant ici vers 16-17h, en parcourant ces quatre étapes et en travaillant sur les concepts qui sont convoqués sur ce chemin.
Je vous suggère aussi un arrêt à la Sablière. Vous savez sûrement plus. Oui, oui. Là où ont été fusillés beaucoup de camarades et des camarades de Ballersdorf et des Luxembourgeois.
Oui, tout à fait. Ouais. Merci François. Alors le prix Véronique Dutrier. Véronique, donc, c'est une femme qui m'a supporté pendant une trentaine d'années et qui avait les plus beaux seins d'Alsace. Et donc, elle m'a donné 3 enfants, je ne m'en suis pas rendu compte, et elle s'est absentée le 15 novembre 2005. On prie dans la famille pour que son assassin recouvre la raison et soit guéri. Selon le précepte de Yeshua. Véronique a matricié 3 enfants et après avoir été hostile pendant 15 ans, elle a pris sa retraite et s'est consacrée aux droits des étrangers. Elle est devenue une des spécialistes, ça c'est pas trop difficile parce que le droit des étrangers n'est pas très couru chez les avocats, elle est devenue une des spécialistes locales du droit des étrangers. Elle a créé en 1998 une permanence d'accueil des sans-papiers à laquelle Michel Böhm participait. Et Véron avait saisi que l'accueil de l'autre devait se faire au moins à deux. Elle n'était jamais seule avec les étrangers en bout de course qui venaient la consulter. Il y avait toujours 2 personnes pour mesurer et contrôler une partie des effets de répulsion que nous inspire le malheureux, le pauvre. Et donc, elles étaient 2 pour pouvoir se contrôler l'une l'autre et accueillir dans les conditions les plus équitables les demandeurs d'asile en bout de course. Demandeurs d'asile dont aujourd'hui Arnaud Klarsfeld, directeur de l'Office français de l'immigration, considère, s'agissant du CASAS, vous connaissez le CASAS à Strasbourg, 13 quai de Saint-Nicolas, une des plus belles associations strasbourgeoises. Il y a un film de Simone Fur et de Daniel Koch qui a été fait sur le CASAS, dont j'ai plus le nom en tête. Les éclaireurs, qui montrent le combat du CASAS. Le CASAS a vu ses subventions coupées en fin de l'année dernière. Et donc tout son travail d'accompagnement menacé, prêt à être annulé par les pouvoirs publics. Inconscient de la masse de travail, de souffrance que ça représente, le CASAS. Et Arnaud Klarsfeld est venu en février au foyer Notre-Dame, qui dorénavant bénéficie des délégations financières de l'État, et a fait un reproche implicite aux gens du CASAS, en leur disant, mesdames, messieurs, par rapport aux demandeurs d'asile et à la construction de leur dossier, vous faites vraiment trop de coaching. Arnaud Klarsfeld, le fils de ses parents, février 2012, foyer Notre-Dame à Strasbourg. Donc, Véronique a matricié 3 enfants. Elle est morte, alors mes gosses, pendant que j'étais hospitalisé, ont décidé avec les réanimateurs de donner 4 organes de Véronique à des gens qui vivent avec ces organes depuis 6 ans. Et on prend des nouvelles anonymement aussi, comme les donneurs de sang. Les donneurs d'organes restent anonymes, donc on prend des nouvelles des bénéficiaires. Donc, et puis la vie a voulu que je prenne en charge une Suissesse pauvre et malheureuse, Anya. La seule Suissesse pauvre et malheureuse qui existait, elle est tombée sur moi. Hein, je pensais que les Suisses étaient autrement. Mais enfin, Anya donc a croisé ma route et nous a donné 2 enfants. Ce qui fait que l'absence de Véro est à l'origine de au moins 6 vies. Et comme les morts sont encore plus présents que les vivants, et que ça a une dimension insupportable à certains égards, les morts sont partout, et on ne peut pas leur dire, hein, ils s'imposent partout. À la limite, on peut conseiller à ceux qui espèrent vivre des histoires d'amour de les vivre avec des morts, Alfred. Puisqu'au fond, l'histoire d'amour ne finira jamais ainsi. Sylvie, et donc, on s'est dit à quelques-uns qu'on allait créer un prix Véronique Dutrier. Le premier a été attribué à Mathieu Maps, qui était un jeune étudiant à la fac de cinéma, qui a fait un petit film très percutant sur l'histoire de Menachem Tafel et sur le refus de la fac d'imposer la fac. Met en scène Jacques Morel, c'était mon lapsus de tout à l'heure, le professeur Sagère, qui a été un de mes maîtres et qui a toujours refusé de voir cette plaque apposée. Et Sagère parle dans le film, honneur soit fait à sa mémoire d'enseignant et de psychiatre, il parle dans le film que le travail du chef d'affaires était un travail de publicité. C'est-à-dire que lui-même, qui a été ancien résistant plutôt, puisqu'on n'est jamais ancien, qui a été maître de la psychiatrie pendant 20 ans, considérait que le travail du chef d'affaires était un travail porté à faire de la publicité, et pas de l'histoire, pas de l'enseignement. Ce n'est pas une critique par rapport à Saint-Germain, hein, c'est simplement rappeler que nous sommes peut-être pris, les uns et les autres, hein, dans les mailles d'une idéologie dont on pense qu'elle est généreuse, mais qui est probablement manichéenne, et qui, de ce fait, implicitement rejette une partie d'entre nous. C'est ça le danger de l'enseignement, quand il ne fait pas référence à ce que l'histoire traumatique peut nous enseigner. Saint-Germain a raconté 3 ans avant de mourir pour la première fois. Il a raconté qu'il était l'assistant des 3 légistes à l'origine du rapport d'autopsie qui a permis de retracer le chemin de croix des 86. Simonin, Pied-Lièvre et Fourcade. Saint-Germain a été l'assistant pendant une journée ou deux. Il a demandé à être relevé tellement c'était dégueulasse. Et il raconte qu'il n'a jamais pu revenir paisiblement dans les murs de l'Institut d'anatomie normale. Il a raconté quelques années avant de mourir.
Des experts.
Qu'est-ce que tu disais, François ?
C'était des experts au sens assermenté par la Cour d'appel.
On a donc attribué le premier prix à Mathieu Maps sur ce film. Ensuite, on a honoré des personnalités dont Claire Osias, qui a fait son œuvre de chercheuse sur les tziganes, et notamment qui est une des chercheuses de référence sur le Samoudariben, le génocide des tziganes, symbolisé en Europe par le 2 août. Tous les 2 août, on commémore le génocide des tziganes pour rappeler que dans la nuit du 2 au 3 août 1944, les nazis ont débarrassé à Auschwitz de tous les tziganes qui y étaient, pour laisser la place aux juifs hongrois. Claire Osias a accepté d'être lauréate. On a honoré Gérard Streff qui a fait un roman policier sur l'histoire des 86. Et puis on a honoré un type qui pour moi est une référence éthique. Alors il se fâche avec tout le monde, et il est fâché avec moi aussi maintenant, parce qu'il ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas les compromissions, c'est Jacques Morel. Il a fait, alors je ne peux pas le lever plus haut, il a fait un livre de 2004 sur le génocide au Rwanda, 2004, pour évoquer la responsabilité de la France. Donc, responsabilité, et en fin d'ouvrage, il y a la liste nominative de tous les membres, du plus petit au plus haut, des ministères de la Défense, des Affaires étrangères. Considérant que nous sommes tous co-responsables du génocide au Rwanda en 1994. 1 million de morts en 10 semaines à la machette. Alors aujourd'hui, c'est Rafik qu'on souhaite honorer symboliquement. Je l'ai rappelé, je suis marié à une Suisse, donc on n'est pas très riche. Le prix sera symbolique et honorifique. On est très heureux, Rafik, on est très heureux dans le cadre du cercle que tu aies accepté d'être le successeur de cette chaîne de chercheurs, de résistants intellectuels, et que tu aies accepté aujourd'hui d'être le 6e dépositaire du prix Véronique Dutrier. Et je vais te remettre symboliquement de ma femme.